It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour Soir Info Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer l'information, la décrypter, l'analyser, débattre également avec nos invités. Pour vous accompagner ce soir jusqu'à minuit autour de ce plateau, Judith Vintraube. Bonsoir ma chère Judith. À vos côtés, Vincent Roy. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Olivier.
Arthur de Vatrigan est également avec nous. Bonsoir mon cher Arthur. Bonsoir Lucas Jakubowicz.
Bonsoir.
Le géopolitologue Denis Deschamps est également avec nous.
Bonsoir
Denis. Et Johan Usaï. On ne vous présente plus.
Bonsoir Olivier.
Journaliste politique CNews. Comment allez-vous ce soir ?
Très bien, je vous remercie. Très bien.
Notre soutien.
Cette question.
Eh bien, nous allons en parler dans un instant. Mais pour démarrer, cette information qui a fait la une de l'actualité, vous avez pu la suivre en direct sur notre antenne hein, tout au long de l'après-midi. Un homme menaçant a pénétré dans le consulat d'Iran à Paris. Alors la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, mobilisée sur place, a interpellé le suspect. L'homme a été placé en garde à vue. L'individu de 61 ans qui était muni de grenades factices, une enquête ouverte pour menace de mort matérialisée par le port d'un gilet factice représentant des explosifs. On revient sur les faits avec Dounia Tengour, Charles Baget et Raphaël Lazreg. Et puis nous serons en liaison avec Mona Jafarian, la présidente de l'association de femmes franco-iraniennes Femmes Azadi, connaissait justement le suspect, elle nous dira qui il était. Mais avant, retour sur les faits.
Il était aux alentours de 11h ce vendredi matin lorsqu'un homme franco-iranien d'une soixantaine d'années, porteur d'un gilet avec des grenades factices, s'est introduit dans le consulat d'Iran, situé rue Fresnel, à Paris, dans le 16e arrondissement, créant l'inquiétude chez les riverains.
On fait toujours attention parce que c'est l'ambassade d'Iran, on a toujours peur.
Très vite, une opération de police menée par la BRI a permis de le faire sortir pour procéder à son interpellation. L'homme n'avait aucune arme sur lui. Pour l'heure, ses motivations restent à déterminer précisément. Mais selon nos informations, il avait déjà été condamné l'année dernière pour avoir mis le feu à des pneus devant la grille de l'ambassade iranienne, justifiant son acte comme une protestation contre le régime. Il devait très prochainement être jugé en appel.
Je vous le disais, donc dans un instant, Mona Jafarian, présidente de l'association de femmes franco-iraniennes, Femmes Azadi, sera en liaison avec nous puisque le suspect, elle le connaît. Judith Vintraube, effectivement, une après-midi assez particulière hein, avec ce suspect qui est rentré dans le consulat iranien. Alors, assez peu d'informations pour le moment, on a échappé au pire. Néanmoins, cela interroge ce soir.
Encore. Ce qui interroge beaucoup, c'est qu'il était déjà connu. Pour des faits antérieurs et qu'une fois de plus, on retrouve dans la nature un individu qui manifeste une dangerosité qui, à mon avis, est évidente et on ne comprend pas comment il a pu être laissé libre de ses mouvements.
Puisque son procès en appel est effectivement devait avoir lieu ce lundi, alors qu'en sera-t-il ? Bien évidemment, il est toujours en garde à vue, donc nous verrons la suite. Néanmoins, tout s'est bien terminé, visiblement un suspect instable, en tout cas d'après les premiers éléments, mais aussi, alors, visiblement très opposé aux ayatollahs du régime iranien, Denis Deschamps. Alors, pas de lien direct hein, avec la situation au Moyen-Orient. Néanmoins, effectivement, dès le départ, on aurait pu faire un lien, bien que à cette heure, pas de lien. Hein.
Vous avez raison. En fait, en ce moment, c'est assez facile de s'asseoir sur la situation du Moyen-Orient pour justifier tout un tas de choses, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Effectivement, le sujet de l'Iran est en train de prendre de l'ampleur un petit peu partout dans le monde. Et donc là, c'est plus un cas personnel avec un sujet personnel. Mais en attendant, je pense qu'il faut quand même saluer les forces de l'ordre. Parce que, en fait, malheureusement, entre guillemets, hein, sans être péjoratif, c'est encore un nouvel entraînement pour les JO. C'est-à-dire qu'ils interviennent de manière extrêmement efficace. On voit ça fait démonstration aux Français, aux touristes qui vont venir, que les unités d'élite françaises sont au point. Mais en attendant, c'est quand même assez inquiétant, parce que on l'a vu, dans certains cas, ça peut aboutir à des choses beaucoup plus dramatiques qu'un dérangé qui essaie de revendiquer une revendication personnelle sur un cas familial.
Alors, qui est ce suspect? Alors, effectivement, ouais. Vous avez raison, on peut saluer les policiers de la BRI, puisque oui. C'est grâce à la négociation qu'ils ont réussi à faire sortir l'individu. Nous sommes avec Mona Jafarian, donc présidente de l'association de femmes franco-iraniennes, Femmes Azadi, qui est en liaison. Bonsoir Mona Jafarian, merci d'avoir accepté notre invitation. Puisque le suspect est une personne connue dans la communauté franco-iranienne, il est d'ailleurs habitué, il sera habitué des manifestations pacifiques en faveur du droit des femmes en Iran. Et vous-même, vous l'avez croisé à plusieurs reprises, c'est bien cela ?
Oui, c'est exact. C'est quelqu'un qui participe. Il faut savoir que notre collectif à nous donc organise toutes les manifestations. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est présent en permanence dans les manifestations et qu'on voit facilement puisqu'il vient toujours avec sa voiture, avec plein de drapeaux accrochés à sa voiture. Donc c'est quand même quelqu'un qu'on voit, oui, effectivement.
Quelqu'un d'un peu au comportement assez particulier, diriez-vous, instable ?
Oui, c'est quelqu'un qui est très, qu'on voit, qui a des propos qui sont peu cohérents, qui a une attitude qui n'est pas cohérente, même dans sa démarche. On voit tout de suite, qu'il est très fragile psychologiquement. Il tient également des propos où on voit bien qu'il est, aussi très fragile dans sa manière de communiquer, dans sa manière de s'exprimer. Je l'ai revu là ce dimanche au Trocadéro, puisqu'il y avait une manifestation qu'on a organisée au Trocadéro où il était présent. D'autres personnes avec qui j'ai discuté m'ont dit qu'effectivement, il avait eu une semaine où il était assez bouleversé. Parce qu'il faut savoir que dans le même temps, en fait, la répression aussi en Iran est très forte. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui était très sensible à ce qui se passait en Iran et qui répétait sans cesse, et dans les manifestations, et aux gens qu'il connaissait, qu'il ne pouvait plus supporter cette barbarie, qu'il n'y arrivait plus. C'est quelqu'un qui était très seul aussi, puisqu'à notre connaissance, il n'avait pas de famille, pas d'amis. C'était une personnalité vraiment fragile et instable.
Le suspect qui avait été arrêté à l'automne 2023 pour avoir mis le feu devant la grille de l'ambassade, là encore, son intention était aller dans ce sens, finalement, dénoncer le régime iranien.
Oui, en fait, c'est ça. Et malheureusement, c'est la deuxième fois qu'on voit ça, puisque l'année dernière, on avait eu un homme du nom de Mohamed Mouradi qui s'était carrément suicidé à Lyon. Qui s'était jeté d'un pont et qui avait mis fin à ses jours pour attirer l'attention des médias et de la communauté internationale sur le sort des Iraniens à l'intérieur du pays. Donc là, on assiste encore à quelqu'un qui essaye d'attirer l'attention et de dénoncer le régime. Alors, bien évidemment, je ne cautionne absolument pas ce genre de méthode, mais c'est vrai que c'est des gens qui sont très fragiles et qui arrivent à un niveau, parce que c'est vrai qu'on est imprégné du matin au soir de toutes ces images qui nous parviennent d'Iran et qui a totalement basculé et perdu pied, je pense.
Merci beaucoup Mona Jafarian pour votre témoignage ce soir. Je rappelle, vous êtes présidente de l'association de femmes franco-iraniennes, Femmes Azadi. Effectivement, Denis Deschamps, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec les tensions au Moyen-Orient à l'heure actuelle, il y a une population iranienne qui s'oppose aussi, et c'est ce que nous disait Mona Jafarian. Visiblement, c'était le cas de ce suspect qui s'oppose fortement au régime des Mollahs.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une grosse... des gros mouvements en Iran, on a des jeunes, on a surtout, et c'est ça qui est médiatisé, le régime médiatise un certain nombre de pressions sur les femmes, notamment celles qui ne portent pas le foulard. Même en conduisant, vous devez porter le foulard. Donc maintenant, il y a même des carrefours qui sont bloqués où tout le monde est vérifié. Et en réalité, le régime essaie de communiquer autour de ça en montrant qu'il est de plus en plus dur sur des règles qu'il a imposées à la population. Donc en fait, il montre qu'il est prêt à réprimer toutes celles et ceux qui ne tiennent pas compte de ces règles-là. Et en même temps, il a aussi un certain discours sur le Moyen-Orient, notamment sur ce qui s'est passé avec l'envoi des 300 missiles et drones, en montrant la souveraineté de l'Iran, la force de l'Iran, l'unité de l'Iran. Donc il y a tout un discours qui est en train d'être distribué auprès de la population comme ça, en essayant de se donner comme modèle.
Peut-être pour conclure sur cet homme donc, qui est rentré aujourd'hui dans le consulat d'Iran, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, même si elles sont factices, un gilet, Vincent Roy, avec des explosifs factices, il a pu rentrer quand même dans le consulat iranien, et c'est inquiétant. Finalement.
Oui, alors il faut dire que les consulats ont pu y rentrer beaucoup plus facilement, par exemple, que dans une ambassade. Mmh. Donc c'est pas très étonnant. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'il me semble bien qu'il avait interdiction de s'approcher à la fois du consulat et de l'ambassade, et qu'il a fait fi de ces interdictions, parce que quand il allait être jugé, vous le disiez lundi
en appel,
mais il avait à respecter un certain nombre de choses, et notamment le fait de ne pas s'approcher ni du consulat ni de l'ambassade,
et donc le suivi du respect ça pose ce problème là Arthur de Vatrigan aussi, hein. Des condamnations.
Ce qu'a dit Julie très bien, c'est que là, on a un exemple de plus du laxisme, des manquements et même de l'inconscience de notre système judiciaire. Et pour répondre à Denis Deschamps, on voit, ça peut être rassurant pour les JO sur l'efficacité de la police. Par contre, le nombre de dingues en croissance au kilomètre carré sur notre sol, là, un peu moins.
Nous allons y revenir sur la situation au Moyen-Orient en deuxième partie, mais avant, vous propose de revenir sur Rima Hassan, la candidate de la France insoumise aux élections européennes, qui a été convoquée par la police, nous l'avons appris ce soir, pour des faits d'apologie publique du terrorisme. Les faits incriminés ont été commis entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. Alors, leur nature reste non précisée sur le document pour le moment. Rima Hassan, je vous le rappelle, placée en 7e position sur la liste insoumise aux européennes, eh bien, elle a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux. J'apprends avec stupéfaction cette convocation. Je ne me laisserai pas intimider par des manœuvres purement politiciennes visant à compromettre ma liberté d'expression sur la Palestine. Voilà sa réaction. La militante qui a dénoncé donc des manœuvres politiciennes, nous le voyons sur ce tweet. Et dans un communiqué, la France insoumise estime qu'il s'agit d'une décision inacceptable qui confirme une tentative d'intimider et de criminaliser toutes les voix qui se lève face au massacre en cours à Gaza, avant d'ajouter, contrairement aux propos qui lui sont imputés, Rima Hassan n'a jamais dit que les actions du 7 octobre étaient légitimes. Nous pouvons tout de même le rappeler, les alertes étaient nombreuses, très nombreuses, concernant les prises de parole de Rima Hassan. À noter par exemple cette interview au média Le Crayon, où elle estimait après le 7 octobre qu'il était vrai que le mouvement islamiste palestinien, le terroriste islamiste palestinien, menait une action légitime. Yohann Usaï. On le sait, Rima Hassan, aujourd'hui, dépose plainte, ou a annoncé déposer plainte, par le biais de son avocat, contre vous. Je vous apporte bien évidemment mon soutien ce soir, parce que c'est toujours une épreuve, c'est jamais plaisant. Mais vous avez suivi de près, c'est votre métier, vous êtes journaliste politique, de près les prises de position de Rima Hassan. Et factuellement, ces prises de position, elles sont plus qu'ambiguës.
Oui, il est logique, me semble-t-il, que la justice ou que les enquêteurs s'intéressent aux déclarations passées de Madame Hassan, qui, pour le moins, interroge grandement. Vous avez cité effectivement ce moment de l'interview accordé au Crayon, où elle légitime en réalité le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où sommes-nous? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Quand on lui demande si l'État d'Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Elle dit non, c'est faux, Israël n'a pas le droit de se défendre. Des exemples, il y en a beaucoup. On peut prendre l'exemple de cette affiche, d'ailleurs, qui a été placardée à de nombreux endroits, annonçant la conférence qui a finalement été annulée à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo de Madame Hassan, son nom, naturellement. Et puis à côté, il y a ce logo de Free Palestine, où l'État d'Israël est rayé de la carte, où l'État hébreu a disparu. Et par définition, par extension, on peut dire que le peuple juif, lui aussi, est rayé de la carte. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme? Des exemples, il y en a beaucoup, on pourrait y passer l'émission. Donc que la justice s'intéresse à cela, écoutez, je crois que c'est plutôt rassurant, dans un sens. On verra bien les conclusion de la justice, parce qu'une convocation ne vaut pas mise en examen et vaut encore moins condamnation, naturellement. Mais que la justice s'intéresse à cela, sincèrement, contrairement au communiqué de la France insoumise, je trouve cela logique. Un dernier mot, si vous le permettez, sur ce communiqué de la France insoumise, parce que jusqu'à présent, on savait que pour la France insoumise, c'est la police qui tuait. La police tue, c'est un slogan désormais de la France insoumise. Désormais, c'est la justice qui intimide. Donc, on voit bien une nouvelle fois que la France insoumise s'est placée, me semble-t-il, de manière définitive, hors du champ républicain, en reniant désormais la plupart de nos institutions et en, comment dirais-je, en mettant en cause l'ensemble de ces institutions. Donc je crois que nous vivons un moment politique assez grave, puisque l'extrême gauche, me semble-t-il, représente quelque part un danger de plus en plus grand pour notre pays.
Et on notera la violence avec laquelle Rima Hassan s'est adressée à vous. C'était absolument d'une violence terrible hein, dans ses propos.
Écoutez, elle a dit « Nous nous retrouverons au tribunal, j'espère que vous serez prêts, je ne vous épargnerai pas. Ah. » Alors, on peut y voir une forme d'intimidation, c'est certain. Je préfère dire les choses très clairement, ça ne m'intimide pas naturellement. Moi, je suis journaliste, je me base sur des faits. Quand j'ai affirmé que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps, je l'ai fait parce que je pense en avoir la preuve. Je viens de vous détailler certaines de ces preuves. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, mais j'analyse des faits et il me semble que ce que j'ai dit est factuel.
Voilà, les prises de position que vous avez observées de très près de Rima Hassan, elles sont très claires, Judith Vintraud. Mais d'ailleurs, la députée de Paris Renaissance, Caroline Yadan, avait porté une proposition de loi pour renforcer les sanctions pénales contre les actes antisémites et racistes. Et pour elle, avec Rima Hassan sur la liste LFI pour les européennes, eh bien, les frères musulmans et les organisations islamistes ont trouvé leur cheval de Troie dans la mélanchonie. Est-ce que vous partagez effectivement ce constat de la députée de Paris, Caroline Yadan ?
Non, parce qu'il me semble que même avant Rima Hassan, il y avait une escouade de chevaux de Troie chez la France Insoumise et que Jean-Luc Mélenchon lui-même a tellement flirté avec cette ligne rouge qu'il n'a pas besoin d'un agent infiltré de l'extérieur pour changer la donne. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. De jouer sur l'antisionisme. On a parlé du meeting de Lille, vous en avez parlé à propos de cette affiche de Free Palestine, donc l'association organisatrice qui raye Israël de la carte purement et simplement. Beaucoup d'entre nous ont vu la diatribe de Jean-Luc Mélenchon ensuite comparant le président de l'université de Lille qui a annulé sa conférence et le préfet à Eichmann, l'inventeur de la solution, le théoricien de la solution finale, parlant de la rafle du Veldiv, de la lâcheté, et parlant à propos de ce président de l'université, de la lâcheté qui a permis la rafle du Veldiv. Et exploit supplémentaire, il s'est débrouillé pour faire tout ça, parler de la rafle du Veldiv, parler d'Eichmann et de la solution finale, sans prononcer une seule fois le mot « juif ». C'est extraordinaire, c'est une performance qu'il faut saluer. Pourquoi ? Mais parce que Jean-Luc Mélenchon ne parle que des juifs que pour les accabler. Il ne présente jamais les juifs en victimes. Donc dans ces deux situations, que ce soit avec Eichmann ou la rafle du Veldiv, évidemment, c'est difficile d'en imputer la responsabilité aux Juifs. Donc, il les zappe.
Donc, du coup, Vincent Roy, la présence de Rima Hassan dans la France insoumise, ce n'est pas le cheval de Troie des frères musulmans dans la mélanchonie, mais plus un révélateur des options de la France insoumise de manière générale, qui reprend une certaine rhétorique islamiste, finalement.
À tout le moins, oui, c'est cohérent. On n'est pas autrement étonné de l'avoir sur cette liste, quand bien même en septième position. Mais je voudrais revenir juste une seconde sur ce qu'a dit à la fois Johan et Judith à propos de cette affiche du meeting de Mélenchon et de Free Palestine, puisque c'est l'association organisatrice. Cette affiche, elle est terrible. Elle est terrible. Elle nie l'existence même de l'État d'Israël. Comment peut-on laisser une affiche comme celle-ci ? Enfin, l'État n'intervient pas là-dessus, on ne peut pas attaquer, parce que quand même, c'est du grand n'importe quoi, cette affiche. Elle est absolument terrible. Et aucune action n'est menée. On va peut-être demain, il y aura, si Free Palestine réorganise, je ne sais pas moi, une manifestation ou quelque chose, on va retrouver la même affiche avec cette négation pure et simple de l'État d'Israël. Enfin, comment laisser vivre, si j'ose dire, une telle affiche dans notre pays à l'heure où nous parlons? Ça me paraît quand même très étonnant, non?
Lucas Jakubowicz.
Pour revenir à tout ce qu'on disait sur LFI, en fait, il y a un phénomène de sciences sociales qui justifie ou qui explique leur comportement, ce qu'on appelle le dog whistle. Dog whistle, ça consiste à faire des gros clins d'œil à un électorat particulier, avec des codes que cet électorat comprend, mais attention, sans tomber sous le coup de la loi. Et en la matière, LFI est vraiment un maître. C'est-à-dire qu'il flatte depuis des années l'électorat antisémite, sans jamais se faire pincer pour antisémitisme. Et à chaque fois, ils ont toujours des arguments de grande mauvaise foi pour justifier leurs actes. Alors que quand on regarde bien leur sémantique, c'est vraiment de l'antisémitisme, mais vieux des années 30. Quand, par exemple, vous avez Jean-Luc Mélenchon, il dit que Mme Braun-Pivet va camper à Tel Aviv. Mmh. Alors, en fait, elle réactive vraiment l'idée du juif qui est apatride, qui est troisième colonne, etc. Les gens s'offusquent, à juste titre, et eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent « Ah, ben, on n'a plus le droit de dire camper, alors ?» Ça veut dire que si je dis « je vais camper ce week-end, je suis antisémite », donc voilà, tout est prêt, tout est préparé pour faire un clin d'œil à cet électorat, et des exemples comme ça, il y en a plein. Voilà. Alors, Jean-Luc Mélenchon est en quelque sorte le maître Jedi en la matière, et après, il a plein de padawans qui sont plus ou moins habiles. Vous avez des gens comme, par exemple, Thomas Porte ou Erzilia Soudet, qui n'ont pas son niveau intellectuel, mais qui marchent dans ses pas. Vous avez des personnes comme, par exemple, David Guiraud, qui utilise le terme « dragon céleste », qui, en fait, dans la complosphère, est très, très connu des gens. Alors, il va dire « mais je fais référence à un manga ». Mais non, vous ne faites pas référence à un manga, vous faites un clin d'œil aux antisémites. Alors, on peut parler, en fait, de sémantique, on peut traiter de sémantique, mais moi, j'aimerais quand même insister sur un point. C'est la conséquence concrète que ces paroles ont sur les gens.
On va y venir.
Un exemple très simple. Ouais. En un mois, du 4 octobre ou du 7 octobre au 5 novembre, en France, il y a eu plus de 1000 actes antisémites. 37 par jour, 1,5 par heure. Des actes déclarés. Et forcément, ce type de discours attise le feu. Et il y a des conséquences très concrètes pour les personnes qui en sont victimes. Les faits divers, on parle souvent, à tel point que c'est même plus des faits divers, c'est des faits de société. Des jeunes qui sont déscolarisés à cause de leur simple nom de famille, qui sont essentialisés, qui sont ramenés à leurs racines. Et tout ça, en fait, effectivement, la France insoumise, même si elle s'en défend, a une immense part de responsabilité. Et juste peut-être une dernière chose, c'est que, et ça me réjouit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes à gauche qui commencent vraiment à alerter, à prendre position. Vous avez par exemple le collectif Golem. Vous avez aussi des personnes comme Jonas Pardo qui avertissent leur camp, qui font fausse route. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils prêchent un peu dans le vide, mais qui sait?
Jérôme Guedge, ça a été le premier d'ailleurs à alerter sur l'affiche, on s'en souvient, avant que la polémique n'enfle. Mais Arthur de Vatrigan, finalement, effectivement, Lucas Jakubowicz nous expliquait toute cette sémantique assez fine, finalement, ce clin d'œil à l'électorat, clin d'œil que Rima Hassan n'a pas fait, puisque elle, finalement, est très claire dans ses propos.
C'est, en fait, la France insoumise croit au grand remplacement et mise sur le grand remplacement islamique en France. C'est ça leur stratégie. Ils ont compris et appliqué la note de Terra Nova de 2012, on change le peuple. Ils ont compris qu'était le nouveau peuple, c'est le peuple immigré. Et le peuple qui immigre en France est majoritairement d'origine africaine ou du Maghreb et majoritairement de culture islamique. Donc ça, ils l'ont compris. Et donc ils flattent cet électorat-là parce que l'électorat ne supporterait pas qu'ils ne prennent pas de position sur des sujets importants. Et des sujets importants, eh ben, ils sont obligés de donner des gages à leur électorat. Donc ils préfèrent sacrifier leur honneur plutôt que des voix. Ils le font très bien. Ensuite, donc ils assument clairement de non plus trimballer des casseroles, mais carrément toute la batterie de cuisine de la compromission et de l'antisémitisme depuis des années. On peut parler 2019 quand Jean-Luc Mélenchon fait la danse des canards avec les islamistes, quand il soutient Médine, quand il est contre l'interdiction de la baïa, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, il se retrouve avec Rima Hassan dans sa liste, c'est pas étonnant. C'est un gage de plus à son électorat.
Mais quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon, finalement, j'allais dire vrille?
Alors, il vrille pas, je pense, malheureusement.
Lucas Jakubowicz. Parce que, par exemple, sur le port du voile de la baïa à l'école, il n'a pas toujours eu la posture qu'il a aujourd'hui. Ouais.
Alors, non, il a changé d'électorat.
Alors, pour expliquer peut-être le vrillage, alors moi en tant que journaliste politique, je suis assez connu pour dénoncer ce qui se passe à LFI. Il faut savoir qu'à LFI c'est un mouvement gazeux, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en désaccord avec la ligne. et qui parfois parle aux journalistes et nous raconte un peu ce qui se passe. Alors moi, de ce qui m'a été remonté par plusieurs sources, le vrillage entre guillemets a commencé avec La République, c'est moi. La République, c'est moi a durablement abîmé l'image de Jean-Luc Mélenchon auprès des classes moyennes, auprès des personnes âgées, auprès des personnes qui sont viscéralement modérées. À partir de là, il y a eu besoin d'avoir un remplacement, un nouvel électorat. Et effectivement, il y a eu l'idée de faire un all-in sur, entre guillemets, l'électorat des quartiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que originellement, l'appareil de LFI, c'est quelqu'un qui ne connaît, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe dans les quartiers. Et du reste, la plupart des députés LFI qui ont été élus récemment, notamment dans les zones urbaines sensibles ou dans les quartiers avec beaucoup d'immigrés, c'est des personnes qui ne viennent pas de ces quartiers. C'est des apparatchiks de 30 ans qui ont fait Sciences Po, mais qui ne sont pas implantés dans ces zones-là, qui sont ce qu'on appelle parachutés. Antoine Léaumont, il vient de Châteauroux. Il a été parachuté à Grigny. David Guiraud, c'est le fils de notable des Lilas. Il a été parachuté à Roubaix. Vous en avez qui ont été parachutés dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, etc., etc. Donc vraiment, oui, effectivement, une sorte de tourisme électoral. Là, je peux rejoindre ce que dit monsieur De Vatrigan. Ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est que ce tourisme électoral, il concerne tous les partis. Par exemple, le Rassemblement National envoyait beaucoup d'apparatchiks qui connaissaient rien au Nord-Pas-de-Calais, dont le Nord-Pas-de-Calais. Par exemple, l'ancienne assistante, je crois, des relations presse de Marine Le Pen.
Juliette Vintraud, vous vouliez apporter une nuance, visiblement.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, cette stratégie d'aller chercher des voix dans les quartiers, elle a été théorisée par Éric Coquerel dès le lendemain de la défaite de 2017. Donc là, on peut vraiment dater de là le déploiement de cette stratégie qui consiste, le calcul était simple, il nous a manqué 600 000 voix, les 600 000 voix, on va les trouver dans les quartiers à majorité musulmane. Voilà. C'est aussi bête que ça.
Qui n'allaient pas spécialement voter avant.
Qui ne vont pas vraiment beaucoup plus voter, mais le problème, c'est que le peu qui va voter, vote pour Mélenchon, complètement. 12 sièges de députés sur 12 en Seine-Saint-Denis. Donc, de ce point de vue-là, sa stratégie est gagnante. Ceux qui vont voter, votent pour lui. La majorité s'abstient, mais ceux qui vont voter, votent pour lui.
Alors, je vous propose, vous concluez, puis on va justement s'intéresser aux conséquences directes de l'exportation du conflit, notamment, et la hausse de l'antisémitisme.
Oui, effectivement, Éric Coquerel et quelques autres ont théorisé cette idée des 600 000 voix manquantes après 2017. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'en interne, pendant un ou deux ans, il y a quand même eu des résistances.
Oui, notamment, et du coup, il y a eu des départs.
Il y a eu des départs, justement.
Je pense à Jean-Kuzmanovic, par exemple.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
C'était insupportable.
Et le vrillage part vraiment à ce moment-là, à partir du moment où des gens comme Kuzmanovic ou Charlotte Girard,
où qui pouvaient faire
contrepoids en interne, sont partis. Alors, effectivement, ça correspond à peu près à La République, c'est moi. Mais effectivement, il y a tout un... Et puis, voilà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces personnes qui sont parties ont été remplacées par des profils plus jeunes, plus intersectionnels, plus indigénistes, qui sont beaucoup plus poreux aux idées... communautariste, on va dire.
Il y a quand même plus de gens au sein de la France insoumise qui sont couchés que de gens qui sont partis. Hein.
Ça, c'est sûr.
Il faut quand même le repréciser, parce que les gens qui sont partis, vous les comptez sur les mains, et encore les mains dans les preux, quoi. Ils sont deux ou trois.
Et en tout cas, Lucas Jakubowicz, vous disiez, vous soulignez les conséquences des paroles des députés de la France insoumise et des paroles en parallèle avec l'exportation du conflit entre les terroristes du Hamas et Israël. En France, bien sûr, c'est bien de cela dont il s'agit concernant l'agression d'un sexagénaire. Souvenez-vous, c'était le 1er mars dernier, il s'appelait Marco. Marco roué de coups parce qu'il portait une kippa et l'homme soupçonné de l'avoir agressé comparaissait justement aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Célia Barat assiste à l'audience.
Près d'un mois et demi après son agression, Marco, 62 ans, va se retrouver à nouveau face à son agresseur. Pour rappel, il sortait d'une synagogue lorsque un homme l'a violemment attaqué. Il lui a donné des coups de poing et des coups de pied. Il avait reçu à l'époque 6 jours d'ITT. Le parquet et la défense avaient demandé le renvoi de ce procès pour lever les doutes concernant la santé mentale du prévenu. Les différentes expertises médicales menées depuis son interpellation ont conduit à des résultats divergents. L'abolition du discernement n'avait pas pu être déterminé. En attente de cette audience, l'homme, trentenaire et connu des services de police et de la justice, avait été placé en détention provisoire. Lors de ses auditions, le prévenu avait reconnu les coups portés à l'encontre de Marco et avait indiqué avoir agi en état de légitime défense. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Il a été reconnu coupable. Hein, 3 ans avec mandat de dépôt, indemnisation des préjudices et frais d'avocat. C'est Célia Barot qui l'a intervenait juste avant donc le procès qui a eu lieu. 3 ans avec mandat de dépôt. Donc voilà, c'était effectivement une peine
dont un de sursis.
Dont un avec sursis. Il y a eu le tribunal correctionnel de Lille qui a condamné jeudi un responsable CGT, Jean-Paul Delesco, à 1 an de prison avec sursis, lui, pour apologie du terrorisme, via des propos tenus dans un tract de soutien aux Palestiniens. Il fait appel d'ailleurs, je dis, d'un trouble de cette condamnation, mais tout cela est quand même le signe. Et rajoutons la terrible hausse des actes antisémites, ce que vous disiez tout à l'heure, Lucas Jukabiewicz, que aujourd'hui le conflit israélo-palestinien est bien sur notre sol et que des députés, notamment de la France insoumise, eh bien, finalement agitent aussi.
Oui, mais ces exemples que vous venez de citer montrent que certains d'entre eux sont quand même parfois rattrapés par la patrouille.
Oui.
La justice passe et passe fort. En l'occurrence, 3 ans de prison, même avec un en sursis probatoire, ce n'est pas une peine légère. Ça me paraît tout à fait satisfaisant. Donc c'est quand même un signe de...
C'est vrai, on pointe souvent le laxisme de la justice. Dans ce cas précis concernant Marco, la justice a fait preuve finalement de... fermeté.
Il faut saluer la fermeté de la justice et il faut aussi, j'en profite pour le dire, saluer la fermeté des entreprises parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, sur les réseaux sociaux, souvent sous couvert d'anonymat, envoient des messages, postent des vidéos qui sont clairement antisémites et qui parfois visent des personnes. Souvent, ces gens-là sont identifiés et systématiquement, les entreprises les licencient pour faute grave. Il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui travaillait dans une mutuelle, je crois, qui avait harcelé l'animateur Arthur.
Arthur, exactement.
Qui a été licencié. Ouais. Plus récemment, il y a aussi une personne qui travaillait pour une filiale de la SNCF, qui postait des vidéos à la gloire du Hamas, qui a aussi été licencié. Donc, une célérité de la justice, il y a une célérité aussi des entreprises. Le petit point mort, le petit angle mort peut-être, c'est dans la fonction publique, les universités, les lycées, les collèges, où là, il y a une sorte de chape de plomb, et effectivement... Il y a beaucoup d'actes antisémites qui visiblement sont impunis et cachés.
On le voit souvent à Sciences Po d'ailleurs. Il est 23h, tout juste. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Soir Info Week-end, ça se poursuit. Mais avant, un point complet sur les toutes dernières informations. Mathieu Devez nous a rejoint. Mon cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La candidate LFI Rima Hassan, convoquée par la police pour apologie du terrorisme, dans un communiqué, son avocat dénonce, je cite, « des manœuvres purement politiciennes ». La militante franco-palestinienne est en 7e position de la liste insoumise aux élections européennes. À partir du 1er juillet, les supermarchés devront installer des affichettes dans leurs rayons pour indiquer clairement les produits dont la quantité a été réduite récemment. Ce phénomène, la shrinkflation, est devenu courant ces 2 dernières années avec l'inflation. Elle a dépassé 20% sur 2 ans dans l'alimentaire. Alors concrètement, les industriels diminuent la quantité d'un produit dans son emballage, mais pas son prix. Au procès de Donald Trump, la sélection des 12 jurés est terminée. On parle bien sûr de l'affaire des pots de vin versés à l'ancienne star du X, Stormy Daniels. Ce sont 12 jurés titulaires et 6 suppléants qui ont donc été choisis par le tribunal de Manhattan pour le procès pénal de l'ancien président républicain, une première dans l'histoire des États-Unis.
Merci beaucoup Mathieu, nous vous retrouvons à 23h30. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews pour vous accompagner ce soir. Judith Vintraube, Vincent Roy, Arthur de Vatrigan, Lucas Jakubowicz, Denis Deschamps et Johan Uzaï. 2 mineurs de 15 et 14 ans mis en examen des chefs d'assassinat. Une annonce du procureur de la République de Dunkerque cet après-midi après la mort de Philippe. Philippe, vous le savez, ce jeune homme de 22 ans, retrouvé inconscient dans la nuit de lundi à mardi sur la commune de Grande-Synthe, dans le Nord, transporté à l'hôpital. Il est mort des suites de ses blessures. Alors, que sait-on à présent précisément de cette affaire? Les dernières informations de Célia Gruyère. Nous en parlons ensuite. Effectivement, beaucoup de questions à soulever ce soir.
2 mineurs mis en examen pour assassinat dans l'enquête sur l'agression de Philippe Koopman. Selon la procureure de Dunkerque, il existe des raisons de penser qu'il s'agit d'un meurtre aggravé par la circonstance de guet-apens. Les 2 individus de 14 et 15 ans ont affirmé en garde à vue avoir fixé rendez-vous à la victime via l'application de rencontre Cocoland en se faisant passer pour une jeune fille mineure.
Le mineur de 14 ans reconnaît sa participation. Il admet qu'il a porté des coups de pied mais il affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer la victime. Le mineur de 15 ans, pour sa part, reconnaît qu'il était présent pendant les faits, mais il réfute avoir porté des coups.
Les deux mineurs ont été placés en détention provisoire et sont connus des services de police pour plusieurs faits.
Le mineur de 14 ans a été déclaré coupable pour des faits de violence commis en juillet 2023, août 2023 et décembre 2023. Le mineur de 15 ans, pour sa part, a été condamné pour des dégradations commises en mars 2022. Il a par ailleurs été déclaré coupable de faits de vol en réunion commis en août 2023.
Une autre enquête est en cours pour des agressions commises dans des circonstances similaires après des rendez-vous fixés sur le site de rencontre.
Les deux suspects, donc âgés de 14 et 15 ans, qui ont été placés en garde à vue, avaient expliqué avoir créé donc le profil d'une jeune fille sur un site de rencontre, site de rencontre d'ailleurs qui interroge, on va en parler, et qui ont donné rendez-vous donc à ce jeune homme pour le punir. Ce qui choque, dans un premier temps, bien évidemment, c'est l'âge des suspects, Vincent Roy. 14 et 15 ans. Et des suspects connus des services de police.
Oui, on va peut-être voir. Aussi, c'est problématique. Oui.
Là, c'est problématique. On va voir leur pédigré qui va s'afficher à l'antenne dans un instant. Le guet-apens qui a été retenu, en tout cas, on l'entendait dans la voix de la procureure de la République. Alors, on va voir quel est le profil des deux mineurs mis en examen. Le mineur de 14 ans déclaré coupable pour des faits de violence en août 2023. Le mineur de 15 ans condamné pour des faits de dégradation et pour vol en réunion. Et ce qui pose problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement ils ont été reconnus coupables, il y a ce fameux délai avant, voilà, avant la sanction immédiate. Et nous en avons beaucoup parlé, mais c'est déjà le premier problème soulevé par cette affaire.
Bah, la preuve, sans quoi effectivement il n'y aurait pas eu précisément ce délai, cette césure, eh bien on ne se serait pas retrouvé dans ces conditions-là. Mais cette affaire, elle est bien bizarre parce que alors soit ce sont des ce qu'on a du mal à imaginer, mais des pères la morale, soit des chantres de la vertu. Mais quel est le but de l'opération là? Ils se font passer pour une jeune fille mineure pour aller piéger un homme de 22 ans qui voudrait entretenir une relation avec cette... Mais quel est le
alors, but de l'affaire? Alors, c'est déclaratif, c'est leur déclaration.
C'est leur déclaration.
Donc
oui.
L'enquête, effectivement, qui se poursuit, va devoir éclaircir tout cela. Néanmoins, Denis Deschamps, 14 et 15 ans, il est 2h du matin, ils sont dehors. On parle beaucoup de l'autorité parentale. Là aussi, la question est soulevée ce soir.
C'est un vrai problème. Alors, effectivement, comme disait Vincent, ils ne sont pas leurs premières affaires. À 2h du matin, qu'est-ce qu'ils font dans les rues? Je pense quand même qu'à cet âge-là, on a autre chose à faire. Et je pense que les parents doivent encore exercer une certaine autorité sur eux. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ces gens se permettent, alors ils sont adultes sur certains volets et prenons des gamins sur d'autres, mais ils se permettent quand même de monter un guet-apens puisque ça a été relevé contre
eux. C'est retenu, exactement. Ouais.
Donc ça va aggraver encore plus leur action. Donc en fait, ils ont pensé leur guet-apens, peut-être pas, l'enquête nous le dira, de vouloir donner la mort, mais en tout cas de donner une correction très sévère quand même à ce jeune homme. Ça a de toute façon entraîné la mort. Et là, effectivement, ça soulève plusieurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils font dans les rues? Qu'est-ce qui a amené à construire un guet-apens de cette manière-là en pleine nuit? Donc le pourquoi, le fameux pourquoi, on n'en sait absolument rien aujourd'hui. Troisième élément, ça soulève encore une fois le sujet que vous aviez évoqué, c'est où est la responsabilité des parents? Est-ce qu'elle va être exercée ou pas? Et je pense qu'à force d'en parler, il serait temps qu'elle soit exercée justement devant la justice. Mais en attendant, encore une fois, on a possiblement, l'enquête nous le dira, possiblement des parents démissionnaires derrière pour avoir de délinquants qui entraînent la mort à 14 et 15 ans. C'est extrêmement grave.
On va revenir dans un instant sur les mesures, puisque Gabriel Attal s'est exprimé hier. David Lisnard, d'ailleurs, qui propose des mesures très concrètes, justement, pour faire face à cette ultra-violence juvénile. Mais avant, Yohann Uzaï, vous vouliez réagir.
Oui, parce que sur l'autorité parentale, ouais. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, puisque beaucoup de parents sont défaillants, manifestement. Et là, il semble quand même que, d'après ce qu'a dit la procureure, ces deux mineurs vivaient dans un contexte familial très, très compliqué. Donc, ça peut signifier quand même que les parents ou n'avaient plus du tout d'autorité, ou étaient même quasiment absents et complètement indifférents vis-à-vis de l'éducation de leur enfant. Donc, manifestement, ces deux adolescentes de 14 et 15 ans étaient en réalité livrées à eux-mêmes.
C'est ça, livré à eux-mêmes, ils se présentent, Judith Vintraub, comme deux frères hein, sur le réseau social TikTok. Ils, connus de la justice, on le disait, biberonnés au rap, visiblement, désœuvrés. Voilà, une sociologie assez complexe.
Oui, alors permets-toi de revenir quand même rapidement sur la césure.
Oui.
Parce que c'est quand même quelque chose d'invraisemblable. La césure donc, est une réforme conçue par Nicole Belloubet, ministre de la Justice. L'idée étant qu'en laissant passer un délai entre 6 et 9 mois entre le prononcé coupable, le jugé coupable et l'énoncé de la sanction, on donne aux mineurs le temps de s'amender, de se remettre dans le droit chemin. Normalement, c'est assorti de mesures éducatives qui, dans notre pays, sont à peu près rien du tout, parce qu'on manque de gens pour les faire, et puis parce que tout le monde s'en fiche, en gros, pour faire court. Et c'est gravissime, hein, parce que ces deux jeunes auraient eu tout de suite la peine qu'ils vont avoir maintenant cumulé avec leurs nouveaux exploits, dramatiques. Ce jeune homme de 22 ans ne serait pas mort. C'est absolument dramatique. Et quand Gabriel Attal nous dit « c'est fini, on ne laisse plus rien passer » et qu'il ne revient pas sur cette mesure, qu'il parle d'abaisser de suspendre l'excuse de minorité à partir de 16 ans, par exemple, ou d'instaurer une sorte de comparution immédiate pour les mineurs à partir de 16 ans. Bon, très bien, mais déjà, n'empilons pas ces spécialités françaises. On a une mauvaise mesure, au lieu de l'abroger, de revenir dessus, de dire... On s'est trompé, on a eu tort, et oui, on ne meurt pas quand on dit on s'est trompé, d'autres meurent parce qu'on se trompe. On empile les trucs, on fait une usine à gaz dont on a aujourd'hui du mal à savoir ce qu'il résultera, quelle mesure primera sur l'autre. Il y a une chose que tout le monde sait, que tout le monde reconnaît, s'agissant de la justice et spécifiquement de la justice des mineurs, la peine n'a pas besoin d'être ultra sévère, elle a besoin d'être certaine et rapide.
Et immédiate, exactement.
Rapprochée des faits.
On va en reparler justement et notamment des annonces de Gabriel Attal, mais dans ce cocktail de ces derniers drames, des derniers drames des derniers jours, Arthur de Vatrigan, c'est toujours la même chose. Il y a aussi les réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, c'est ce fameux site de rencontre, Coco, via lequel ce jeune homme a été victime du guet-apens. Alors, il est considéré comme un repère de prédateurs par plusieurs associations de défense de l'enfance et de lutte contre l'homophobie. Pour entrer sur ce site Coco, il faut, on appelle ça un site de chat sans inscription. Il suffit de donner son genre, son âge, son code postal et se créer un pseudo sans aucun contrôle. Là aussi, il y a un vrai sujet, une nouvelle fois, avec ces réseaux sociaux.
Je pense que c'est deux sujets différents. Il ne faut pas rentrer dans l'exercice de communication du gouvernement qui essaie de voir les réseaux sociaux comme
des
problématiques. Mais non, parce que dans les deux derniers grands faits qu'on a eu de violence de mineurs, il n'y avait pas d'histoire de réseaux sociaux. Donc ça ne marche pas à tous les coups. Je ne dis pas qu'il y a un problème avec l'image, un problème avec la pornographie, un problème avec les réseaux sociaux. Évidemment que si vous mettez un smartphone dans les mains de votre gamin à l'âge de 6 ans, vous, c'est pas long d'être criminel, ça je le pense à 100%. Mais c'est donc cause de ça que...
Quand le garde des Sceaux dit les réseaux sociaux, en fait il y a ces nouveautés comme les réseaux sociaux, et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous faisons face à une ultra-violence juvénile,
non,
pour vous
ça tient pas, ça peut tenir sur le harcèlement, par exemple dans le harcèlement scolaire, parce que le harcèlement a toujours existé, sauf que avant les réseaux sociaux, avant le téléphone, le harcèlement s'arrêtait quand on passait la porte de l'établissement. Aujourd'hui, avec le téléphone et les réseaux sociaux, ça continue en permanence, 24 heures sur 24, et malheureusement, il y a des gamins qui suicident. Donc on peut voir un impact des réseaux sociaux et du téléphone, du smartphone, évidemment. Mais de croire que c'est à cause de ça qu'il y a des surviolences, pas du tout. Il y a une surviolence, alors déjà parce qu'on la combat pas, la violence, elle se combat par la force, par une force qui est légitime, qui tient la légitimité de la loi. Aujourd'hui, il n'y a aucune force. La force, elle est du côté des délinquants, elle n'est pas du côté de ceux qui détiennent l'autorité. On leur fait des petites remontrances, on leur met un petit bracelet, on leur dit de repeindre une façade, et c'est terminé. Donc ça ne marche pas. Ensuite, il y a un impensé, c'est les parents. Alors ça revient de temps en temps, on va supprimer les allocs et tout, on fait des petits trucs. Très bien, sauf qu'il y a déjà l'article 217-17 du code pénal qui existe, c'est qu'on peut condamner des parents s'ils se soustraient à leur obligation légale.
Donc il suffit juste de l'appliquer.
Sauf que ça n'a jamais été appliqué en 40 ans. Jamais. Pourquoi voulez-vous rajouter un... Ça existe. Après, il y a quand même aussi un problème, et moi, je m'interroge toujours sur comment on appréhende l'adolescence et l'enfance en France. Je ne comprends rien à ce qu'on nous raconte. On nous dit, d'un point de vue pénal, 13 ans, problème de discernement. 16 ans, excuse de majorité. 18 ans, on n'est pas assez responsable et pas assez mature pour pouvoir voter ou pour pouvoir conduire avant 18 ans. Par contre, à 6 ans, vous pouvez changer de sexe à l'école et vous pouvez prendre des bloqueurs d'hormones. Voilà. Comment on pense l'enfance et l'adolescence en France aujourd'hui depuis des années? Moi, je comprends rien, quoi. On veut dire un gamin de 16 ans qui tue quelqu'un, oh, il y a une excuse de minorité, il n'est pas assez responsable. Par contre, une gamine qui dit, bah, je me sens un peu femme et pas mec, donc je veux qu'à l'école, grâce à la circulaire bancaire, je veux qu'on m'appelle Kevin et pas Kevina, ça marche. Elle est où la logique?
Effectivement, vous soulevez une réelle problématique. Toujours est-il que face à cette ultra-violence juvénile, certains tentent d'apporter des réponses. C'est en tout cas le souhait d'Alexandre Martin, député d'Avis Lisnard, maire de Cannes. Il propose un plan de mesures contre la délinquance des mineurs. Alors, entre autres, on va voir à l'antenne quelques-unes de ces propositions. La majorité pénale à 16 ans, ramener l'excuse de minorité à 20% de la peine encourue, ou encore intégrer une amende allant jusqu'à 12 000 euros. Denis Deschamps voit qu'il y a des solutions, mais on a le sentiment, et je vous vois tous autour de ce plateau, hocher en disant...
Il faut faire la césure et il faut tout, ouais. Construire des établissements pénitentiaires dédiés en rétablissant la possibilité de faire des peines de prison courtes, voire très courtes. Or, je ne vois pas ça dans les propositions de David Lisnard, malheureusement.
Moi, je note deux choses qui ont été soulevées par Arthur juste avant. La première chose, c'est que s'il y a violence, elle ne peut être combattue que par un même mode de traitement. Ça ne peut pas être par des remontrances ou par « Oh, attention, c'est pas bien. Ça, c'est bon, maintenant, depuis 30 ans, on sait que ça ne marche pas. » Bon, c'est même pas la peine d'insister, ça ne marche pas. L'autre point, c'est que Arthur a fait la démonstration d'une maladie française, c'est que par rapport à un problème, on a légiféré l'article du code pénal que vous avez soulevé, mais il n'est jamais appliqué. Donc on est exactement... dans une jurisprudence qui s'est imposée sur la France, c'est qu'on est un très grand législateur. Chaque fois qu'il y a un problème, on crée une loi, mais elle n'est jamais appliquée. Et surtout pour des cas comme ça, ça c'est gravissime. Dernier point sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on le sait qu'ils ont d'immenses avantages, mais d'immenses inconvénients également. On le sait qu'il y a une violence qui est déferlée là-dessus, sans aucun contrôle. Vous parliez des sites de rencontres, mais plus généralement, il n'y a pas de contrôle. Il y a des jeux vidéo extrêmement violents. Ça banalise la violence qui fait que, ah bah tiens, allez, on va aller taper un jeune, manque de peau, il meurt, quoi. Donc en fait, on est... Vous voyez, par rapport aux films, aux séries et aux jeux vidéo, maintenant on pense que ça va se faire comme ça, on s'est défoulé, le gamin va se relever. Non, il est mort.
Oui, enfin, les gens ne savent pas que faire la différence entre le virtuel et le réel.
Mais c'est toujours pareil, c'est la question aussi de l'éducation et le rôle des parents.
Non, mais sur les peines, écoutez, sur les peines, vous avez bien vu que tout ça n'existe pas. Regardez, vous avez une vieille dame qui a été frappée par un jeune, par deux jeunes qui ont même filmé, c'était à Cannes.
À Cannes, exactement. À Cannes.
Celui qui a frappé cette vieille dame a pris un an de sursis probatoire. Quelle leçon ! Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Là, on a rodéo urbain, un jeune de 17 ans envoie plein pot sa moto alors qu'un policier municipal veut l'arrêter, il fonce dans le policier, il fonce littéralement, on a vu les images, il fonce dans le policier et voici que ce jeune, à l'heure où nous parlons, est actuellement en liberté. Il va attendre quelques mois pour... Non, écoutez...
Au fond, c'est un manque de volonté ou un manque de moyens? Puisque visiblement, a priori, pour faire exécuter immédiatement une peine pour un mineur, ça semble être plutôt une question de volonté.
Non, mais je crois qu'il y a les deux. D'abord, ce qui me fait dire qu'il n'y aura pas de choc d'autorité concernant les mineurs dans ce pays, c'est que le gouvernement part en disant on va lancer une concertation. Quand ça commence comme ça, en général, les mesures qui s'annoncent, a priori, ne seront pas à la hauteur de la situation. Parce que le constat, il est partagé par tous depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que la violence des mineurs, on ne découvre pas aujourd'hui qu'elle a notamment augmenté, mais qu'elle s'est en plus aggravée en termes de violence. Donc le constat, on le connaît, et les réponses, elles sont connues. Les responsables politiques, ils ont des rapports, des tas de rapports qui dorment dans des placards et qui préconisent des solutions qui n'ont jamais été testées jusqu'à présent. Si le gouvernement avait réellement la volonté d'imposer un choc d'autorité, il n'aurait pas fait de concertation, il aurait demandé au Parlement de voter ces mesures-là.
Mais alors, vous l'expliquez comment?
La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un problème quand même d'idéologie, parce que vous pourrez augmenter les peines, dire pour tel délit, vous ne risquerez plus 3 ans de prison, mais 5 ans. Mais si les magistrats qui ne condamnent de toute façon déjà jamais à 3 ans de prison, ils ne condamneront pas plus à 5 ans, si vous voulez. Donc, si les magistrats font preuve de laxisme aujourd'hui, vous pourrez augmenter les peines en votant une nouvelle loi. Les magistrats qui sont laxistes aujourd'hui seront laxistes demain. Donc, ce problème d'idéologie, il ne se réglera pas par une loi de toute façon.
Et d'ailleurs, le syndicat de la magistrature, qui a vivement réagi aux propos de Gabriel Attal, voilà. D'ailleurs. Lucas Jakubowicz.
Alors, en plus d'une concertation, je préconise de faire un numéro vert et un Grenelle. On devrait trouver une solution. Non, plus sérieusement, moi, ce qui m'intéresse dans ces actes d'extrême violence des jeunes, c'est de regarder un peu ce qu'ils postent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, les musiques qu'ils écoutent. Et je fais ça depuis 1 ou 2 ans, parce qu'il y a beaucoup de faits divers à tel point que ça devient un enjeu de société. Et ce qui me frappe le plus, c'est l'absence de vocabulaire de ces personnes. L'absence de vocabulaire, l'absence de réflexion, l'absence de capacité à débattre. Et j'ai l'impression vraiment que cette ultra-violence, elle est aussi corrélée, on parle beaucoup de l'éducation des parents, mais aussi à l'éducation nationale. J'ai l'impression que plus on s'enfonce dans les classements des tests PISA, etc., plus on est une génération qui est incapable de parler, d'apporter de la nuance, qui parle une sorte de novlangue, pour citer 1984, plus on a des personnes qui automatiquement sont violentes. Alors peut-être aussi une des solutions pour essayer de remédier à la chose, quelque part, c'est aussi, finalement, de relancer une bonne fois pour toutes le service public de l'éducation nationale pour avoir à terme des gens qui soient capables de parler, de mettre des mots sur leurs émotions, de dialoguer, de savoir comment on vit dans une société. Et ça, à mes yeux, c'est vraiment un angle mort extrême. Alors, le gouvernement va dire non, c'est pas un angle mort, on va doubler les heures d'éducation civique. Mais, je veux dire, c'est rien.
Avant de parler de la situation au Moyen-Orient, notons qu'aujourd'hui, il y a eu une marche blanche donc à Grande-Synthe ce matin pour Philippe, une autre marche blanche ce soir à 18h30 pour Zakaria à Romans-sur-Isère. Vous vous souvenez de cette adolescente de 15 ans tuée d'un coup de couteau. Parmi les 4 suspects mis en examen, l'un a 16 ans, là encore. Nous pouvons bien évidemment comprendre l'importance de ces marches blanches pour les victimes, pour les proches des victimes, pour les familles, pour leur apporter un soutien. Mais deux marches blanches, Judith Vintraube, en une journée. C'est-à-dire que ça devrait provoquer un sursaut.
C'est un symbole épouvantable de l'impuissance des autorités.
Ouais.
Et des autorités légitimes, des pouvoirs publics. On est le pays des marches blanches, des fleurs et des couronnes, des bougies.
Et des bougies, voilà, les chaînes d'information qui relaient les larmes, ces marches blanches.
Des discours larmoyants. Enfin, je veux quand même souligner que avant la marche blanche, le maire de la ville a pris la parole et a dit que surtout...
Il a pointé l'extrême droite.
Voilà, il ne fallait pas que ça soit récupéré par l'extrême droite. Enfin, c'est plus que maladroit, cette sortie du maire. C'est plus que maladroit, vraiment. On ne voit pas ce que ça vient faire ici. Ça n'était pas le lieu pour faire de la politique, me semble-t-il.
Bah, je trouve que le principe d'un politique, a priori, c'est de faire de la récupération, sinon il ne sert à rien. Voilà. C'est la base. Il y a des faits, on fait de la récupération et on traduit politiquement.
Voilà. Denis Deschamps.
Et moi, ce qui m'ennuie, c'est le sujet de fond qu'a soulevé Judith. C'est qu'en réalité, on est en train de constater que l'État, qui est le dépositaire de l'autorité légitime, puisque tous, ensemble, on accepte de ne pas se faire justice soi-même et on délègue l'exercice de la violence et de la vengeance à l'État. L'État, en fait, fait la démonstration de la déliquescence de son exercice de l'autorité, du pouvoir et de la violence.
Allez, je vous propose de revenir à présent sur la situation au Moyen-Orient, puisque tout au long de la journée, les appels à la désescalade se sont multipliés après la riposte israélienne en Iran. Israël a en effet lancé une riposte contre l'Iran, représailles aux frappes iraniennes contre son territoire. C'était le week-end dernier. C'est ce qu'ont indiqué en tout cas plusieurs médias aux États-Unis, citant des responsables américains, puisque cette frappe n'a pas été revendiquée par Israël. Nous allons y revenir. Mais avant, nous voyons ce sujet pour revenir sur ces frappes et on en parle ensuite.
Téhéran a fait état de 3 explosions survenues à l'aube près d'une base militaire dans la province d'Ispahan, située au centre du pays.
Dans ce cas précis, c'est une base qui a déjà été attaquée en janvier 2023. Donc ce n'est pas la première fois qu'Israël est supposé avoir attaqué l'Iran. Cette base qui est située à Gajavorstan est une base très importante de l'armée de l'air, d'un centre de production de missiles.
Dans la foulée, l'Iran a activé sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Selon les autorités iraniennes, des drones ont été abattus, mais aucun dégât n'est à déplorer. Ville stratégique, Ispahan abrite plusieurs sites nucléaires.
Les installations importantes, en particulier les installations nucléaires, sont totalement sûres et aucun accident n'y a été signalé.
Une opération qui intervient en représailles des frappes iraniennes survenues le week-end dernier. Tsahal, qui ne souhaite pour le moment ne donner aucun commentaire, a prévenu Washington de cette attaque. Une riposte que n'approuvent pas les États-Unis. L'ambassade américaine en Israël a ordonné à ses employés et à leurs familles de limiter leurs déplacements à l'intérieur du pays. De son côté, l'Australie exhorte ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens.
Denis Deschamps, pourrait-on parler d'une frappe de principe finalement côté israélien ?
Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. En fait, toute la communauté internationale appelait Netanyahou à ne pas intervenir pour ne pas justement donner de l'énergie à cet engrenage infernal, et les États-Unis en tête. Netanyahou, on sentait qu'il bouillait dans son coin. Ils ont eu réunion sur réunion dans leur conseil de sécurité. Donc en fait, ils voulaient intervenir pour le principe. Beaucoup de pays ont continué à mettre la pression sur Netanyahou, la France également, l'Europe, le G7 qui était en réunion. Et d'un autre côté, l'Iran a beaucoup communiqué de manière officielle et officieuse auprès des Américains pour dire « Maintenant, c'est bon, entre guillemets, excusez-moi du terme, on est quitte, et maintenant on s'arrête là, on ne veut surtout pas d'escalade au Moyen-Orient. » Et ce qui est assez intéressant ce matin, c'est que l'Iran n'a pas, enfin a dit qu'il y avait des explosions, mais ils n'ont pas du tout dit, d'ailleurs ils ont même précisé que ça ne vient pas d'un État étranger.
Oui, ça vient de l'intérieur.
Ça vient de l'intérieur, c'est ça. Et en même temps, et on va l'écouter, et vous continuerez ensuite, le ministre des Affaires étrangères iranien qui a réagi également ce matin, regardez.
En cas d'utilisation de la force par le régime israélien et de violation de notre souveraineté, la République islamique d'Iran n'hésitera pas une seconde à affirmer ses droits, à répondre de façon décisive et adéquate, à faire regretter ses actions au régime.
Alors c'est vrai que ce qui est étonnant, Denis Deschamps, c'est que vous le disiez, d'un côté l'Iran, à travers son agence de presse, fait savoir qu'il n'y avait aucune information faisant état d'une attaque venant de l'étranger, et dans le même temps, on vient de l'entendre, l'Iran qui bombe le torse en disant oui. Si jamais on se fait attaquer, attention à la réplique. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ?
Et en plus, le président Raisi ce matin faisait un meeting dans la matinée, et il n'a pas du tout évoqué l'attaque du matin. Alors que Netanyahou a également, vers 3h du matin, 2h55, bombardé le sud de la Syrie, je crois. Certaines bases militaires du sud de la Syrie. Alors, Israël n'a pas revendiqué, mais ils ont prévenu quand même les Américains qu'ils allaient agir. Et ce qui est assez intéressant en filigrane, c'est qu'on a bien vu la montée en puissance dans la volonté de Netanyahou de réagir et d'essayer de saisir le moment du 13 avril, en disant « Moi, je veux absolument bombarder l'Iran, notamment les sites nucléaires. » Cependant, Israël n'a pas les moyens de bombarder l'Iran à grande échelle et encore moins des sites nucléaires. Par conséquent, ils ont besoin de l'appui logistique, matériel et financier américain pour lancer une vraie offensive sur l'Iran. Et c'est là où les Américains sont intervenus en disant « Nous, et d'ailleurs Blinken l'a redit aujourd'hui au G7, il est hors de question qu'on soit associé à une quelconque vengeance sur l'Iran. Déjà, on n'était pas pour qu'il réagisse. » Donc c'est assez intéressant, c'est que Netanyahou se retrouve seul dans sa volonté de vengeance. Alors il répondait à deux choses. En agissant ainsi, il répondait un à son opinion publique pour dire « Moi, je suis là pour défendre l'État d'Israël. Vous avez vu, j'ai réagi. » Deux, n'oublions jamais dans sa coalition, il est en train d'essayer de satisfaire son aile droite, et il a besoin de cette de ces mouvements-là pour rester au pouvoir, parce qu'on sait qu'il a des rendez-vous judiciaires très importants, donc il reste et il entretient la guerre pour ne pas se retrouver trop vite devant le judiciaire. Oui,
enfin, Judith Vintraube, vous vouliez réagir au propos de Denis Deschamps.
Parce qu'en l'occurrence, il ne l'a pas satisfait, son aile d'extrême droite. Il y a même un ministre d'extrême droite, vous l'avez dit, la consigne était de ne pas réagir en Israël, puisqu'Israël n'est pas censé avoir attaqué l'Iran, mais il y a quand même un ministre d'extrême droite qui s'est permis de réagir en déplorant la faiblesse de la riposte israélienne. Donc, en fait, sur ce coup-là, Netanyahou a parfaitement calibré et son cabinet de guerre.
Je pense qu'il n'était pas seul. Les Américains étaient derrière.
Et son cabinet de guerre ont parfaitement calibré cette
riposte. Mais son envie était plus importante que ça.
Mais l'envie des Iraniens de ne pas considérer ça comme une attaque valant à son tour riposte est très nette aussi.
Est-ce que, Vincent Roman, on peut craindre des impacts de la riposte israélienne sur la stabilité du Moyen-Orient?
Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est imbriqué. Vous ne pouvez pas, notamment dans la volonté qu'avait Israël de frapper le nucléaire iranien, ce qui n'est pas possible sans l'aide américaine, mais il faut comprendre la défection américaine sur cette question. Car tout est imbriqué. Vous ne pouvez pas ôter ce conflit avec l'Iran de l'Ukraine, ni même, par exemple, de la Chine. Les États-Unis ne peuvent pas ouvrir plusieurs fronts. Et ils sont, effectivement, on l'a vu en Ukraine, bien qu'ils se désimpliquent. Là, ils aident Israël. Attaquer l'Iran avec Israël serait ouvrir un troisième front, alors même que peut-être le président Xi Jinping pourrait se dire « Ah tiens, j'en profite pour attaquer Taïwan ». Et là, les États-Unis seraient pris sur différents fronts et ne pourraient peut-être pas faire face. D'où les réticences américaines. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces conflits dont je viens de parler sont liés. Et on ne peut pas en extraire un. Les réactions ne s'expliquent que par des réactions en chaîne, si j'ose dire, parce que précisément tout est lié.
Et pour conclure, nous pouvons ajouter qu'Emmanuel Macron a assuré ce soir au Premier ministre libanais qu'il fera tout pour prévenir la montée des violences entre le Liban et Israël, à suivre de près également l'offensive sur Rafah, qui était imminente. Oui.
Et si je peux me permettre, l'attitude de la France, qui vient quand même d'approuver...
Exact. Qui a été très mal perçu.
À l'ONU, au Conseil de sécurité, la résolution algérienne visant à faire de la Palestine un membre de plein exercice à l'ONU. Heureusement, les États-Unis ont opposé leur veto. Ça ne s'est pas fait à cette proposition algérienne. Mais penser que notre pays ait pu accepter ça après le 7 octobre et alors que... tant en Cisjordanie, où Abbas ne fait rien pour la paix, au contraire, et à Gaza, piloté par le Hamas, c'est vraiment pas le moment de commencer un début de reconnaissance, d'offrir un début de reconnaissance aux territoires palestiniens tels qu'ils sont actuellement.
Il est 23h30. Dans un instant, je vous propose de parler liberté d'expression. Mais avant, nous allons retrouver Mathieu Devez pour un point complet sur les toutes dernières informations. C'est à vous, mon cher Mathieu.
Un homme a été interpellé et placé en garde à vue après s'être introduit dans le consulat d'Iran à Paris. Il s'agit d'un ressortissant iranien. Il portait un gilet avec des grenades factices. La BRI a dû intervenir. Le responsable de la CGT dans le Nord, condamné pour apologie du terrorisme, 1 an de prison avec sursis et 5 000 euros au titre du préjudice moral au parti civil. Une condamnation après un tract de soutien aux Palestiniens diffusé 6 jours après les attaques du Hamas. L'Ukraine ne peut plus attendre. Volodymyr Zelensky demande à l'OTAN de fournir des armes. Il s'exprimait en visioconférence devant l'OTAN à la veille d'un vote clé du Congrès américain sur une aide de 61 milliards de dollars. Et après de nouveaux bombardements russes, le président ukrainien déclare que Vladimir Poutine doit être ramené sur Terre.
Merci mon cher Mathieu. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit, l'édition de la nuit avec Simon Guillain. Très bonne soirée à vous mon cher Mathieu. On vous retrouve demain sur les antennes de CNews. Je vous propose à présent que nous parlions liberté d'expression, ou plus précisément liberté d'expression à géométrie variable de la part de la France insoumise. et de Jean-Luc Mélenchon. Alors le contexte, vous le connaissez, nous l'avons évoqué tout à l'heure, depuis 48 heures, Jean-Luc Mélenchon qui dénonce donc une censure après l'annulation de sa conférence avec Rima Hassan à l'Université de Lille, puis son interdiction par le préfet. Hier, lors d'une prise de parole, Jean-Luc Mélenchon qui s'est attaqué à notre chaîne, la qualifiant, je cite, de chaîne infâme. Écoutez-le.
Elisa Boyer qui les relaie pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews, à qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement.
Yohann Uzaï, tout à fait paradoxal de crier à la censure parce qu'on ne peut pas tenir une conférence et ensuite, on l'entendait lors d'un rassemblement contre cette censure, réclamer la censure d'une chaîne de télévision, la nôtre en l'occurrence, en la qualifiant d'infâme.
Non mais évidemment, c'est toutes les ambiguïtés, le paradoxe de l'extrême gauche qui dénonce quelque chose quand ça s'applique à eux, mais qui sont les premiers à vouloir l'appliquer aux autres, si vous voulez. Effectivement, ils regrettent le fait d'être censurés, même s'il ne s'agit pas de censure. Attention, c'est une décision qui a été prise et qui est tout à fait légitime. Ils dénoncent cette censure et ils veulent en même temps faire fermer la première chaîne d'info de France, si vous voulez. Ça donne une idée de ce que serait notre pays si l'extrême gauche était au pouvoir. C'est un peu effrayant quand même. Et je voudrais quand même dire que, me sentant un peu visé, vous le comprenez bien, vous aussi, j'imagine, honnêtement, je crois qu'on n'a pas de leçon à donner ni à recevoir de la part de quelqu'un qui est à la tête de la France insoumise. Quand on voit ce qui est devenu ce parti, quand on voit les propos qu'a tenu ce parti depuis le 7 octobre, mais bien avant, quand on voit les conséquences de ces propos, notamment sur nos compatriotes juifs, qui depuis le 7 octobre ont quand même vécu, pour la plupart d'entre eux, un calvaire, je n'ai pas de leçons à recevoir de Jean-Luc Mélenchon. Je n'accepte pas ces leçons de morale, je n'accepte pas ces leçons tout court.
Alors, ce qui est intéressant, et puisqu'on vous entendra les uns et les autres après, c'est que la veille, Éric Zemmour a aussi été empêché de participer à un colloque. Mais c'était en Belgique. Le président de Reconquête, qui a soutenu finalement Jean-Luc Mélenchon, en déclarant, nous allons voir son tweet, Mélenchon a le droit de s'exprimer, on ne m'a jamais vu, on ne me verra jamais me réjouir qu'un adversaire soit censuré, même si on s'en doute, il ne me rendra jamais l'appareil. Ce n'est pas parce qu'il est un ennemi islamo-gauchiste que l'on doit se mettre à approuver les méthodes qui sont justement celles des islamo-gauchistes, la censure, l'interdiction, le bâillonnement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah non, mais moi je suis tout à fait d'accord. De toute façon, je suis absolument contre toutes les censures. Et je suis pour que M. Mélenchon puisse, dans le cadre de la loi, évidemment, s'exprimer autant qu'il voudra. Ça permettra à chacun, en conscience, au moment de voter, de savoir pour qui il vote et quelles sont les idées qu'il défend. Donc moi, alors là, que M. Mélenchon dise des âneries à longueur de journée, ça ne me pose aucun problème. Mais je voulais revenir tout à l'heure, à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de M. Mélenchon et du moment où il avait vrillé. Mais en fait, dans le fond, il n'a pas vrillé. M. Mélenchon était un lambertiste. Le voici redevenu le lambertiste qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Il a fait un stage par le Parti Socialiste. Il était devenu, vous savez, le bon sénateur...
Le plus jeune sénateur de France.
...socialiste. Il a menti à peu près toute sa vie sur les intentions qui étaient les siennes. Voici que maintenant, il se met à dire sa vérité, qui est une vérité lambertiste. Il est revenu. Vous savez, c'est le principe de la révolution. On revient au point de départ. Par contre, il ne faut jamais que M. Mélenchon oublie qu'en général, tous les révolutionnaires finissent à l'échafaud.
Emmanuel Macron, qui s'est exprimé également après l'interdiction de ce colloque d'Emmanuel Macron à l'Université de Lille, je vous propose de l'écouter.
Parce que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. Quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Lucas Jakubowicz, il a raison, le chef de l'État, on ne peut pas continuer à interdire sans cesse des conférences. Mais la France insoumise, on peut le dire, est l'arroseur arrosé tout de même, puisqu'on ne les a pas entendues lorsque d'autres conférences, et nombreuses, avaient été annulées auparavant. On se souvient de Sylviane Agacinski, on se souvient de Florence Bergeau-Blecker notamment.
Oui, bah c'est la liberté d'expression, on va dire, à géométrie variable et quand ça arrange les gens. Je voulais juste rebondir sur deux choses. Un point qu'on a évoqué en tout début de séquence, donc quand Jean-Luc Mélenchon traite CNews de chaîne infâme. Après tout, on va lui trouver une circonstance atténuante. Il vous considère comme un ennemi idéologique qui vous attaque. Mais ce qui est plus drôle ou tragique pour Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il exerce les mêmes propos, la même haine envers ses alliés potentiels. Par exemple, Fabien Roussel, allié, assimilé à Doriot. Les socialistes, traînés plus bactères. Les écolos, tensés quand ils se demandaient est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'inviter Médine. Et d'ailleurs, ça fait un point commun avec Éric Zemmour. En réalité, Mélenchon et Zemmour ont de nombreux points communs. Et un des points communs, c'est de vraiment maltraiter les alliés potentiels. Un autre point aussi, pour rebondir sur ce que disait Vincent sur le lambertisme ou les cellules d'extrême-gauche, il y a aussi quelque chose de très fréquent dans ces cellules, c'est en fait se méfier vraiment des rivaux potentiels. Donc ce qui se fait assez souvent, c'est de prendre sous son aile des gens plus jeunes, de les modeler, de les former, ce que fait très bien Mélenchon. Mais dès qu'une tête dépasse ou dès qu'une personne est un peu trop capée, on l'exécute. Et d'ailleurs, quand on parlait des purges à la France insoumise, à chaque fois, les personnes qui sont purgées, c'est quand même des personnes avec une certaine envergure, une certaine culture, une certaine culture intellectuelle.
Ce ne sont pas des petits jeunes.
Ce n'est pas des petits jeunes. Voilà.
Pour faire court.
Par contre, c'est des petits jeunes qui prennent la place.
Julie Vatrot, peut-être sur les propos d'Emmanuel Macron, justement, concernant la liberté d'expression et déplorant finalement que les uns et les autres ne puissent pas s'exprimer librement. On peut le rejoindre finalement dans ce constat.
L'Emmanuel Macron du jour est parfait. il est beaucoup mieux que l'Emmanuel Macron qui exclut le Rassemblement National ou Reconquête de l'arc républicain. Donc sous-entendant par là que finalement la liberté d'expression n'est pas tout à fait pour eux. Hein, c'est toujours les jours pairs et les jours impairs avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous sommes en accord avec lui. Et bien que travaillant pour cette chaîne infâme, nous défendons le droit de Jean-Luc Mélenchon à tenir meeting. Alors, moi, je trouvais que pas dans la fac, parce que la fac n'est pas le lieu de campagne. En plus, c'est un meeting et pas un colloque.
C'est un
meeting.
Donc c'est vraiment...
Mais en revanche, dans la ville, évidemment, il devait pouvoir le faire. Quant à l'injonction faite à l'ARCOM, l'autorité de l'audiovisuel, de retirer sa fréquence à CNews, je pense qu'elle va se dépêcher d'obéir et de faire en sorte que tout le monde dise « Ah ben voilà, l'ARCOM obéit à la France insoumise ».
Arthur de Vatrigan et Denis Deschamps, vous vouliez également réagir aux propos d'Emmanuel Macron.
Oui, alors d'abord sur Mélenchon, c'est toujours assez marrant d'entendre un Picaro sans col Mao parler de liberté d'expression, c'est toujours un peu baroque. Sur Emmanuel Macron qui dit que la République s'entend toutes les voix, je vous rappellerai juste qu'au départ la République a tronçonné toutes les voix qui n'étaient pas d'accord, et ça Jean-Luc Mélenchon s'en rappelle très bien, puisque toutes ces sbires se battent avec la tête de Robespierre en pendentif et se réclament tout le temps. Enfin, le mot liberté d'expression, pour moi c'est un peu comme Marc Républicain, c'est quand même un concept assez fumeux, et c'est toujours les mêmes qui décident, même encore aujourd'hui, qui appartient à l'arc républicain, et ce que c'est que la liberté d'expression. Alors, Jean-Luc Mélenchon, hier, était dans l'arc, aujourd'hui, il n'en est plus. Avant, c'était d'autres. Moi, ce qui me dérange, c'est ceux qui se sont octroyés ce concept fumeux et qui décident encore aujourd'hui de qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler.
Vous parleriez d'un concept fumeux, vous aussi, oui. Denis Deschamps, oui. ou pas, concept de la liberté d'expression ?
C'est un petit peu comme... en relations internationales, on dit toujours que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. C'est un peu le même principe, en réalité. Vous voyez, c'est ceux qui sont au pouvoir qui décident qui sont les alliés, pas les alliés, en dehors et dedans. Moi, je voulais aussi rebondir sur la chaîne CNews. Je trouve même que c'est une bonne nouvelle, excusez-moi.
Oui,
c'est une très bonne nouvelle, puisqu'en réalité, toujours dans les relations internationales, on cherche toujours, histoire de faire parler de soi et d'entrer dans un combat, en tout cas homérique, on cherche toujours un allié beaucoup plus grand que soi, pour essayer de faire croire qu'on est l'égal de cet allié-là. Regardez par exemple la Corée du Nord, qui voulaient absolument rentrer en contact avec, avec les États-Unis, qui ont toujours boudé la Corée du Nord jusqu'à ce que Trump arrive, qui a mis un pied d'ailleurs en Corée du Nord. Regardez l'Iran. L'Iran, en fait, on cherche à être l'égal du plus puissant. Eh bien, en fait, ça montre, un, la puissance de la chaîne CNews qui est regardée, parce qu'elle est très décriée par ce genre de battleurs.
Première chaîne d'info, Yoann Uzaï le rappelait.
Elle est très écoutée, très regardée. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'en fait, nos débats intéressent les gens. Ça, c'est très intéressant. On n'est souvent pas d'accord, mais peu importe. En tout cas, ça intéresse les gens. On apporte quelque chose. Et en même temps, ça le dérange. Donc c'est une très bonne nouvelle.
Il y a quelque chose chez Mélenchon qu'il ne faut pas oublier. D'abord, vous l'avez vu, enfin, il faut écouter ses discours. C'est un orateur de tout premier plan. C'est un type qui a une vraie culture politique. C'est pas, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas n'importe quoi. Évidemment qu'il sait très bien qu'il n'arrivera pas au pouvoir. Il est même la première personne à en être persuadé. En revanche, il a un ego absolument surdimensionné et il veut s'inscrire dans l'histoire. Et c'est ça qu'il veut. Il veut être une personnalité. Vous savez, Jean-Luc vote Mélenchon et Mélenchon vote Jean-Luc. La seule chose qui l'intéresse, c'est lui. Lui, lui et lui. Et il fait du théâtre. Tout ça pour continuer d'exister. C'est tout. Il faut pas non plus ôter cette...
Vous diriez qu'on en parle trop, peut-être ?
Cette dimension narcissique chez Mélenchon, elle est première. Elle est essentielle. Sans avoir cela en tête, on peut difficilement le comprendre, puisqu'il change d'idée comme de chemise.
Lucas Jakubowicz, pour conclure, il nous reste un peu plus de deux minutes. On va pas dire un mot de sport pour clore cette émission, quelque chose d'un peu plus léger.
Non, juste aussi pour dire que Jean-Luc Mélenchon n'est ni de gauche, ni de droite. Idéologiquement, c'est surtout un populiste. Ce qui caractérise le populisme, c'est l'attaque contre les élites. Et les médias symbolisent l'élite. Et d'ailleurs, vous observerez que Jean-Luc Mélenchon attaque souvent CNews, mais il attaque aussi Le Monde, Libération, France Inter. Vous n'êtes pas les seuls à être attaqués. Et ça, c'est une stratégie politique qui n'a plus rien à voir avec la gauche ou la social-démocratie, qui est l'ennemi absolu des insoumis, mais ça a à voir avec le populisme. C'est une théorie qui est inspirée notamment d'une philosophe qui s'appelle Chantal Mouffe, et qui est une des maîtres à penser de Jean-Luc Mélenchon.
Je souhaitais, puisqu'il nous reste un peu plus d'une minute, que nous terminions avec un mot de sport. Voilà, petit frère, un mot de sport. Alors, de quoi va-t-on parler à quelques jours des Jeux Olympiques ? Eh bien, d'une victoire, puisque à cette table, nous avons une vice-championne. Vice-championne de Paris de... pétanque, Judith Vintraube. Alors on va voir l'image et voilà, félicitations. Alors,
en
doublette, on voit
Marcella
avec votre équipe. Avec votre équipe. Alors,
et les gagnants qui sont à côté.
Formidable. Alors voilà, on découvre votre passion pour la pétanque. Plaisir,
normalement, c'est ma vie secrète.
Je me suis permis que c'est fini.
Là, c'est terminé. Mais j'en profite pour dire que c'est un sport merveilleux qui permet de rencontrer des gens vraiment venus de tous horizons, ça coûte très peu cher, tout le monde peut le pratiquer et on se bat tous pour que Paris reste aussi accueillant qu'il l'est pour la pétanque, ce qui n'a pas l'air d'être dans les projets de Madame Hidalgo, malheureusement. Parce
qui voudrait supprimer ce club de pétanque.
C'est pas des terrains rentables. Donc, ça attaque beaucoup.
Alors, nous demandons à Madame...
C'est une rubrique que vous inaugurez.
Voilà.
La semaine prochaine,
on va suivre les performances de
la
Judy.
La semaine prochaine, c'est Denis Deschamps et le curling. Ça va être captivant.
Pourquoi pas.
Je suis très bon à la pétanque. Champion de Loir-et-Cher.
Quand vous voulez.
Ah ben avec plaisir.
Alors voilà, on suivra peut-être, pourquoi pas, les prochains exploits de Judith Vintraube à la pétanque. Donc, toutes nos
félicitations. On pourra faire une chronique, quelque chose de régulier.
Une mini-série.
La chronique.
Nous arrivons au terme de cette édition. Ça fait du bien de rire de temps à autre avec cette actualité lourde que vous avez, comme à chaque fois, parfaitement décrypté. Un grand merci à tous les six, l'actualité qui continue. Simon Guilin, à minuit avec l'édition de la nuit. Un grand merci à toutes les équipes techniques et à la rédaction en chef de m'avoir aidé à préparer cette émission. Nous nous retrouvons demain à 17h, Punchline Weekend. Excellente soirée sur notre antenne.